Tribune.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
La Bretagne est la première des régions françaises productrices de porc. Elle prend la place de leader français en matière de production porcine, puisque 58% de la production française y est produite. La Bretagne élève 8 millions de cochons, truies et porcs confondus, quand le nombre d'habitants est de plus de 3 millions. C'est pour cette raison qu'on dit souvent qu'il y a plus de cochons en Bretagne que de bretons. On distingue les élevages de truies reproductrices, dits les naisseurs, les élevages d'engraissement, les engraisseurs, et les élevages mixtes. En 2017, il existait 5400 exploitations porcines. Ce chiffre est en baisse continue depuis plusieurs années, alors que le nombre de cochons en élevage, lui, ne diminue pas. Ce qui laisse à penser que l'on assiste à une concentration des exploitations et un agrandissement de celles-ci. Les élevages hors sol y sont particulièrement développés. Nous ne connaissons pas le chiffre exact du nombre d'exploitations pratiquant l'élevage en plein air en Bretagne. On sait seulement au niveau national que le plein air représente seulement 5% des exploitations et il serait étonnant que ce chiffre diffère en Bretagne. Certains pensent même qu'il est inférieur au vu des conditions climatiques parfois un petit peu difficiles. Ce qui est certain, c'est que l'élevage hors sol et intensif est largement dominant et que les quelques éleveurs en plein air sont très rares. Sophie Kouka a eu la chance de passer une après-midi avec l'un d'entre eux, Loïc Lelièvre, éleveur de cochons en plein air, reconverti après avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans une exploitation conventionnelle et basé en Ille-et-Vilaine à Beauvel. Il nous confie ici sa reconversion dans l'élevage en plein air et biologique, ses difficultés, ses échecs, ses réussites et sa profonde détermination à faire de son exploitation une réussite humaine lui permettant de vivre correctement de son travail tout en préservant le bien-être animal et la bonne qualité de la viande. Ce reportage vous est proposé en deux parties. Voici la première.
Bonjour Monsieur Lelièvre. Vous avez attiré notre attention parce que vous êtes un des rares éleveurs de cochons en plein air qu'on ait en Bretagne. Pourquoi c'est pas facile et assez courageux d'être un éleveur comme vous, donc de porc bio, puisque tout ce que vous produisez, vous le transformez vous-même et vous le vendez en circuit court. Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure d'avoir des cochons qui, donc, quand on est en plein air, ils vivent en plein air, ils ont leur petite maison?
Alors le choix du porc en plein air, c'est parce que j'ai travaillé 20 ans dans le conventionnel. Et c'est vrai que sur les 20 ans, j'ai vu l'évolution des antibiotiques dans les élevages. C'est pour ça que quand je me suis installé, je me suis dit, les porcs, ça s'élève sans antibiotiques normalement. Alors c'est pour ça que je les ai mis dehors.
D'accord.
Avec des cabanes de 20 mètres carrés pour une vingtaine de porcs. Ça fait 1500-2000 mètres carrés le parc. Ils se promènent partout, quoi. C'est vrai que le porc plein air, c'est quand même plus compliqué à élever.
Oui.
Parce que l'hiver, en Bretagne, on a quand même de l'eau. Alors c'est vrai qu'il faut toujours les garder avec de la paille dans les cabanes.
D'accord.
Il faut renouveler assez souvent.
Et puis, donc c'est beaucoup de travail.
Beaucoup de travail. Et puis un porc plein air, ça pousse beaucoup moins vite qu'un porc qui pousse sur 80 cm carrés.
D'accord.
Alors, c'est le...
Parce qu'il bouge, parce que...
Ah bah, parce qu'il, oui, il court tout le temps.
Oui.
Tout le temps, où il fouille dans la terre, enfin, il s'amuse. Ah, ils sont toujours en mouvement. Alors, c'est vrai que moi, je les garde un an pour faire à peu près un porc de 100 kg. Tandis qu'en conventionnel, elle les garde à peine 6 mois, quoi. Les céréales sont beaucoup plus chères aussi.
Parce que c'est bio.
Parce que c'est bio.
Et tout de suite, vous êtes parti aussi dans l'agriculture biologique.
Oui, je me suis installé en 2008 et tout de suite j'ai dit, je me suis mis en conversion,
oui,
pendant 2 ans. Je voulais sortir du mode conventionnel, quoi.
Et vous, tout de suite, vous vous êtes dit, je vais faire que de la vente en direct aux particuliers?
Ah non,
ou vous avez eu
parce qu'au début,
c'est
compliqué.
Compliqué.
La vente directe, ça se fait pas.
J'avais
un peu, enfin, quelques clients, mais pour le bœuf. Mais là, le porc, j'ai attendu 5-6 ans. Et ça a commencé à se développer quand j'ai monté mon labo et mon magasin. Je travaille avec BVB, autrement. Bretagne Viande Bio, c'est un groupement de producteurs biologiques. Et puis c'est un groupement que qui est à taille humaine. Quoi. C'est un petit groupement, ça me convient par rapport à mon exploitation. Quoi.
D'accord, donc pour vous, c'est bien d'avoir les deux finalement.
Ah,
d'avoir
oui.
la vente ah, directe oui, oui. et d'avoir oui. ce groupement. Oui. Et pouvoir.
Puis comme c'est grâce à eux que je me suis développé, parce que les premières années, si je ne les avais pas eu, c'était pas. Alors je continue avec eux. Et là, il y a la relation avec les gens aussi qui est très importante.
Donc pour vous, dans votre métier, les relations avec les gens sont importantes?
Ça travaille quand même difficile. Hein. Travailler dehors, l'hiver, l'été au chaud, enfin, il y a quand même des périodes assez difficiles. Et puis, envoyer ces animaux sans jamais en entendre parler, quoi. Ils partent à l'abattoir. Donc là, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait du saucisson. Et ben, j'ai déjà des gens qui m'ont rappelé, oh, qu'est-ce qu'il est bon ton saucisson. Alors vous voyez, c'est des choses.
Voilà, je vais me permettre de dire quelque chose que vous ne pouvez pas dire. Ce que vous faites, c'est vraiment exceptionnellement bon.
On en essaie.
Et quand vous parliez du fait qu'il faut un an pour vous avoir un porc de 100 kilos par rapport à 6 mois en élevage traditionnel, sincèrement, pour moi, c'est la première fois que j'ai vu une viande de porc qui ne rend pas une goutte d'eau quand on la cuit.
Ah oui, mais c'est vrai que mon ancien boucher, enfin, qui a travaillé un peu avec moi, il me disait que lui, quand il était dans la boucherie, ses plateaux, il les vidait deux fois de sang dans la matinée. Et ici, on ne l'évite jamais. Le problème de la viande élevée en conventionnel, c'est qu'on la fait, enfin, on la produit trop vite. Et puis, on lui donne quand même des antibiotiques assez souvent. Alors, c'est ça qui fait que ça donne de l'eau. Mais bon, c'est une viande standard. Dans les années 70, c'est ce qu'on demandait, quoi. 80 aussi, enfin, jusqu'aux années 2000. Les gens ne se posaient pas la question, ils mangeaient de la viande. Peut-être maintenant, ils se posent la question. On veut manger de la bonne viande. Mais c'est pas de la faute des agriculteurs, hein. c'est pas de leur faute en fin de compte. On leur a dit, faut produire. On voit que cette génération-là a du mal à vouloir changer de modèle. Parce que ces gens-là, ils ont toujours été dans ce milieu-là. Et puis on leur a toujours dit, c'est ça qu'il faut faire. C'est ce qu'il y a de mieux, on peut pas faire mieux. Et dans les années 50-60, on faisait ce qu'on fait nous maintenant. On faisait du bio dans ce temps-là. Oui. Il n'y avait pas besoin de label, là, puisque tout le monde était comme ça. Et puis, c'est l'agrochimie alimentaire qui a mis son nez dans le monde agricole et qui a tout détruit. On a commencé par détruire les haies. Nous, en bio, on en replante pas mal. Hein. Mais les conventionnels commencent à en replanter aussi, certains.
On va aller faire un petit tour.
Oui,
hein.
On va aller voir les animaux. Vous avez des bottes, vous ? Alors, en 2008, j'ai planté les haies. Ouais, de chaque côté, là, cette année, j'en ai replanté une. Là, on voit le petit tabu, là-bas. On essaye de planter pour favoriser les abeilles, tout ce qui est plantes à fleurs, enfin arbres avec des fleurs quoi.
Oui.
Les pommiers, les poiriers. C'est vrai que là on a pas mal de bois autour aussi, c'est intéressant, il y a de l'ombre.
D'accord.
Et ça coupe le vent pour l'hiver. C'est ça qui est intéressant dans les haies.
C'est à la fois l'ombre
pour le soleil
et le coupe-vent.
Il y a une prise de conscience quand même chez certains agriculteurs, même en conventionnel, ils voient bien qu'ils sont au bout, ils ne peuvent pas aller plus loin. Déjà, la politique du rendement, il ne faut plus penser rendement, il faut penser qualité.
Voilà. Oui, et c'est ça qui maintient le sens, même quand vous vous dites que ce n'est pas le plus rentable, en fait, nous, voilà, mon activité elle n'est pas que rentable.
Elle est utile.
Oui,
elle est utile. Enfin, elle n'est pas rentable. Si, parce que nos produits sont quand même vendus plus cher. À l'avenir, j'espère que ça sera rentable. Mais c'est vrai que...
Parce que pour vous, pour l'instant, c'est encore compliqué sur un plan financier.
Ah ben oui, parce que déjà, en 2008 jusqu'en 2015, je manquais de terre. Ben, j'en ai retrouvé 10 hectares. Mais après, il faut les mettre en conversion. Le temps qu'elles sont en conversion, on ne peut pas les utiliser.
Et quand vous dites vous manquez de terre pour produire les aliments,
céréales.
Les céréales. Mmh. D'accord. C'est pas pour mettre les cochons.
Ah non, c'est pour produire les céréales.
Quand vous dites, vous leur donnez des céréales, c'est du blé ou c'est d'autres...
Il y a du blé, blé triticale, orge, févrole et puis pois. Enfin, c'est un mélange, quoi. C'est pour avoir de la protéine avec le pois et la févrole et de l'énergie avec le blé.
Févrole, c'est un genre de fève ?
Oui, ça ressemble, oui.
D'accord.
Et là, normalement... Si je deviens autonome l'année prochaine, ça sera déjà plus facile pour moi de dégager un revenu.
Après 10 ans de travail.
Oui, 10 ans de galère aussi.
10 ans de galère aussi.
Parce que c'est vrai qu'on vient du milieu conventionnel, moi j'étais dans un secteur, j'étais enfin, à 25-30 degrés tout le temps. On avait une façon d'élever les animaux que moi, quand je suis arrivé là, la première année il a fait froid déjà l'hiver, voilà, j'ai perdu quand même pas mal de borcelets. J'avais pas tout, enfin, j'ai plus les mêmes armes que j'avais quand j'étais dans le conventionnel.
Donc il a fallu que vous réappreniez, voire vous inventiez.
Voilà, il a fallu réapprendre tout le métier. C'était un nouveau métier en fin de compte. Mes parents étaient agriculteurs, ils avaient 11 hectares et puis 11 vaches. Mais alors ce que je comprends pas, c'est que eux, de leur temps, 11 hectares, 11 vaches, ils ont élevé 4 enfants, on n'a jamais rien, manqué de rien. Et maintenant, avec 200 hectares, on vit plus. Alors là, c'est là que je comprends pas, et 100 vaches. Il y a des choses qui n'y vont plus, oui. C'est qu'il y a trop de gens à vivre de l'agriculture. Enfin, de l'agriculteur. Il y a 7 ou 8 personnes qui vivent là autour de nous. Enfin, ça fait vivre du monde, mais l'agriculteur, il vit pour lui.
Il vit pas.
Non, c'est ça.
Alors, tout le monde. Parasitage, en fait.
Ouais, tout le monde prend autour.
Alors, quels sont les métiers que vous identifiez comme étant des métiers qui vivent de l'agriculteur?
Ah, bah, il y a déjà les coopératives. Eux, ils vivent pas mal. Lui, il est mis sous pression avec les industriels. Plus les grandes surfaces.
Donc les coopératives, elles vendent aux industriels la plupart du temps. Elles ne transforment pas.
Il y a certaines coopératives
en Bretagne
si.
Qui sont aussi des transformateurs.
Pas tout le monde, mais il y en a quand même. Et après, c'est
la grande transformateur.
Oui, et il y a la grande surface.
La grande surface.
Et la grande surface, elle n'est pas facile en affaire. Surtout Monsieur Leclerc. C'est le pire. Alors, et pourtant, c'est un Breton, lui.
Oui,
ouais.
C'est
quand même terrible.
On peut être breton et avoir le sens du commerce.
Ah oui, mais enfin là, c'est même plus le sens du commerce. C'est tuer le monde agricole. Enfin...
Donc pour vous, c'est la centrale la plus dure en affaires.
Ah, c'est la plus dure en affaires,
ouais.
Alors quand je l'entends, M. Leclerc, nous dire qu'il veut mettre 200 magasins bio dans toute la France, ça me fait peur. Parce que déjà, on voit bien à la télé, la pub qu'il fait, le bio le moins cher, c'est chez lui. Il ne faut pas parler du prix en bio. C'est pas ça. Il faut parler de la qualité de vie des animaux, enfin des plantes, parce que les plantes aussi, ils vivent comme nous, et de l'agriculteur. Moi, je vois bien, j'ai été approché par des COP pour faire centruine et sœur, comme dans le conventionnel. Quoi. Là, on est parti pour.
Maintenant, parti pour faire du bio-industriel.
Comme le conventionnel. Alors, on va avoir des naisseurs, des engraisseurs. Enfin, tout va être structuré comme ça. Et ça, c'est pas ce qu'il y a
de
mieux.
C'est pas une bonne chose. Non, mais c'est pour ça qu'il faut en parler, parce que le seul garde-fou, c'est le client final.
Alors, c'est pour ça que la vente directe, c'est bien.
Qui peut contrebalancer ce pouvoir-là qu'ont les grandes surfaces.
Bah, de toute façon, pour tout. Pour la biodiversité, on voit bien, là, on a parlé des insectes cette semaine. Dans 100 ans, il n'y en a plus. Alors, si on ne fait rien, c'est le consommateur. Hein.
Bien sûr.
Si ils se rendent compte que ça sert à quelque chose, les insectes, eh ben, ils disent, là, il faut peut-être qu'on change notre façon de se nourrir. Et on est obligé de changer. Les abeilles qui disparaissent, c'est pas normal. Les scientifiques, je pensais qu'ils avaient plus de poids que ça. Ils n'ont pas trop tellement de poids dans en face de l'agrochimie alimentaire. C'est eux qui commandent. Les politiques n'ont pas beaucoup de pouvoir par rapport à ce gros monstre... industriel. Et après, il y a les syndicats agricoles qui ne font pas de bien non plus aux petits agriculteurs comme nous. On voit bien que c'est pour l'agrandissement. Le bio, je pense pas qu'ils en parlent beaucoup dans leurs réunions. Hein. C'est plutôt l'agrandissement. Et le problème de l'agrandissement, ce qui risque à l'avenir, c'est que les enfants pourront même plus racheter. Ce sera tellement gros qu'ils pourront même plus racheter leur part. Tout ce qui touche au monde agricole. Hein, on voit bien que les rendements vont baisser. Là. On peut être au top du top conventionnel. Les rendements commencent à...
Et ils commencent à baisser. Pourquoi, à votre avis? Parce que la terre est complètement épuisée.
Elle n'en peut plus. Même avec tous les produits qu'on lui met, elle a la saturation. Elle ne peut plus produire plus, de toute façon. Et elle commence à régresser. Parce que... il n'y a plus d'humus dans le sol, il n'y a plus de bactéries, les vers de terre disparaissent. Ça devient un support, la terre. Autant en agriculture biologique, on nourrit la terre pour que la terre nourrit la plante, que dans le conventionnel, on ferait pousser sur la route, pareil. Ça, c'est le support, on s'en fout du support. Mais comme on ne descend plus beaucoup du tracteur non plus, on n'a pas le temps de voir qu'elle a changé notre terre, c'est ça. Mais moi, je plains... le conventionnel, hein, c'est pas de la faute de l'agriculteur, c'est ce qu'on lui a mis dans la tête. Et le problème, c'est qu'on a laissé tout ce que nos grands-parents faisaient, enfin, nos parents ont changé ça, quoi. Parce qu'il y a des plantes comme le trèfle violet. Trèfle violet, avant les années 60, tout le monde l'utilisait. Après, on a dit, oh là, il y a l'azote qui est arrivé, chimique, et ben, on n'a plus besoin de ces plantes-là. Déjà, c'est pas assez rentable, mais je m'aperçois que depuis 5-6 ans, là, et ben, ça revient. Les gens, ils recommencent à faire du trèfle. Bah oui, ça coûte rien. Un trèfle violet, ça peut rester 2 ans en implantation. Et au bout de 2 ans, c'est ce qui est intéressant pour la terre, c'est les racines. Puis tout l'azote qu'il apporte au sol.
D'accord.
Quand elle se détruit, la matière organique, ça apporte autant que du fumier, pratiquement.
D'accord.
Et ça nettoie le sol. Alors les mauvaises herbes, les premières années, ça ne pousse plus à cause du trèfle.
Oui, donc c'est une plante un peu
magique. C'est très intéressant.
Oui.
C'est une plante qui nettoie et qui fertilise.
Ah, une petite curieuse. Elle vient nous voir.
Bonjour ma belle.
Alors on va peut-être revenir aux cochons, parce que c'était intéressant, on est parti, puis on les a un peu abandonnés, nos cochons. Donc ça, là, au bout de 10 ans, vous voyez que maintenant, vous maîtrisez à peu près...
Plus. On maîtrise plus la production. Ça doit être le seul qui doit rester en port plein air, en engraissement sûr, et même en gestant de maternité... Puis bon, avec la baisse porcine, je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire. Peut-être bien les ramasser aussi. Je ne sais pas comment ça va se passer cette année, mais s'il faut les ramasser, j'arrête. Je continue pas mon métier. C'est déjà parce que je n'ai pas les moyens de faire des bâtiments et je n'ai pas où les faire. Ce sera l'arrêt de l'exploitation.
Moi, je trouve assez exceptionnel qu'il y ait encore des gens comme vous.
Ah bon?
Ou alors, peut-être pas qu'il y ait encore des gens comme vous, qui commencent à re-y-avoir des gens comme vous.
Si, on va être de plus en plus. Si on nous...
Si on vous laisse vivre.
Oui, si on nous laisse faire notre métier. Comme on a envie. Il est en plein air celui-là. Il va amener des maladies partout. Ça va être une catastrophe. Alors, il faut mieux qu'il se confine. Je pense que c'est ça qu'on pense de nous. Les éleveurs, on leur a tellement dit que faut surtout pas que l'air rentre dans vos bâtiments parce que vous allez attraper des maladies. Alors quand ils voient un élevage comme nous et puis qu'ils sont à 2 km, ils se disent il va nous amener des maladies celui-là.
Oui, alors que l'inverse, c'est que c'est vous en fait chez qui il n'y a pas de malades.
Puis on les confine, puis ils sont malades alors. C'est ça que je comprends pas moi.
Est-ce que c'est pas là aussi le fait que les animaux sont hyper fragilisés par le mode d'élevage qui fait qu'effectivement les épidémies sont à la fois, on le comprend, ont un impact économique fort, mais aussi tout simplement prolifèrent plus vite parce que les animaux sont moins capables de se défendre naturellement.
Enfin, ils prolifèrent surtout parce qu'il y a beaucoup de mouvements d'animaux. Beaucoup d'animaux qui viennent à l'étranger, après les nôtres repartent à l'extérieur, des mouvements d'animaux, ça joue sur les maladies, je pense.
La transmission,
ça se fait comme ça.
Oui, donc en fait, pour lutter contre ces épidémies, on s'y prend mal.
Ah oui, c'est sûr. Moi, chez moi, il n'y a pas un camion qui rentre chez moi. Par contre, il y a plein de gens qui rentrent chez moi, mais pas de camion, de l'extérieur. Les animaux, par exemple. Ils viennent d'une ferme, ils repartent dans une route. Et puis, ces choses-là, ça contamine. C'est obligatoire. Que moi, j'ai pas de... Enfin, ça rentre pas dans mon élevage, quoi. Mon élevage est bien loin de mon site où j'ai des céréales qui arrivent. Tandis qu'un conventionnel, il est obligé de mettre ses silos à côté de ses bâtiments. Alors, moi, je pense que c'est déjà la première cause de...
De transmission. D'épidémie.
Ouais. Enfin, il y a toujours quelque chose pour nous faire utiliser des produits aussi. Ça, on l'a utilisé sur les bovins aussi. Une année, là, des vaccinations. Puis après, on n'a pas entendu parler. Mais là, cette année-là, si on ne le faisait pas, on avait des soucis. On ne donnait plus les cartes. Enfin, avec la pression, on est obligé de le faire. Même si nous, en bio, on n'était pas du tout...
concernés.
Et puis, pas envie de le faire. Et puis, on l'a fait une fois. Et puis, on a bien vu que ça ne s'est pas développé.
Vous n'êtes pas en lien avec des associations? Je pense à des associations, par exemple, qui aident des agriculteurs bio à acheter des terres ou... les soutiennent, on parlait juridiquement, qui les soutiennent quelquefois dans leur démêlée administrative, etc. Vous n'êtes pas non plus dans ce type de circuit?
Non. Pour acheter des terres, par exemple, puisque j'ai eu le cas il y a 2 ans. Et là, ça fait, normalement, qu'il devait être là pour aider, normalement, d'après ce que j'avais compris, moi, celui qu'on a besoin, le plus besoin. celui qui n'en a pas beaucoup, pour l'aider à franchir un palier.
Oui.
Et en fin de compte, je me suis aperçu que c'était tout le contraire. C'est plus t'en as, et bah plus on t'en donne. Mais la SAFER, c'est co-géré par la FNSA. La FNSA, c'est une pieuvre. Elle est partout. Elle est dans les crédits. Elle est chambre d'agriculture, ça, c'est pas de problème. Enfin, elle est dans tous les domaines.
Et elle ne fait que promouvoir l'agriculture intensive.
Bah, moi, je l'entends surtout là-dessus. Hein. Je l'entends pas beaucoup pour le bio, hein. Pas entendu encore. Le syndicalisme, moi, je ne suis pas syndiqué. Parce que c'est les petits syndicats, ils n'arriveront jamais à passer la FNSA. Jamais, parce que déjà, ils sont trop et puis ils s'entendent pas. Je pense pas qu'on peut continuer par les syndicats. Il faut créer un mouvement. Mouvement de petits producteurs. Moins de 50 hectares, par exemple. Et qu'on arrive à se faire entendre. Parce que plus ça va, plus on est important, quand même, les petits producteurs. Parce que les gros exploitants, plus ça va, moins il y en a. Parce que comme ils se rachètent tous, dans une commune comme la nôtre, là, il devait y avoir 5-6 producteurs. Que dans les années 70, il y avait 3 ou 4 par village. Sur la France entière, je pense qu'on est plus nombreux que la FSA. Par contre, bah, faut créer quelque chose. Pour se faire entendre, mais pas de la voie syndicale. Puis faire entendre nos problèmes. Il faut qu'on arrive à développer des systèmes qui peuvent aider les petits producteurs. Je pense que moi, ça va se faire par le consommateur et par les producteurs si on arrive à souder quoi, tous les petits producteurs. Et qu'on se fasse entendre par nos dirigeants. De toute façon, on parlait de la FSA, mais les présidents de la FSA, ils finissent où? Soit députés, soit ministres de l'Agriculture.
Comment vous imaginez qu'on puisse rapprocher ces deux mondes, les consommateurs et justement les petits producteurs? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est une bonne idée, mais finalement, ils ne savent pas non plus comment faire pour aider, pour participer.
Mmh. Enfin, nous, déjà, on ouvre nos exploitations. Moi, je l'ouvre toute l'année. Hein. Les gens, c'est ce que je dis aux gens. Vous pouvez aller quand vous voulez. Donc, vous rentrez pendant les parcs, mais vous pouvez aller voir les animaux. Mais ce n'est pas fermé. Et puis, on l'ouvre aussi à des associations, enfin, des AMAP. Mais c'est vrai que les gens n'ont pas envie non plus de leur parler de nos problèmes. On parle surtout de l'exploitation. Moi, je préfère leur parler de l'exploitation, l'environnement. Et on voit que les gens évoluent quand même. Dans les AMAP, les gens s'intéressent quand même... déjà, ils s'intéressent quand même au côté argent. Là. C'est vrai qu'ils payent les choses avant. Enfin, ils mettent en place des contrats. C'est vrai que c'est des choses qu'ils veulent que l'agriculteur puisse vivre quand même tout le temps.
De son travail, c'était le principe de la MAP.
Mais l'évolution, c'est quand on les emmène dans les champs, tout ça, ils posent plein de questions. On voit qu'ils s'intéressent et qu'ils commencent à connaître certaines choses.
Et Internet, ça vous a semblé être un outil intéressant pour vous faire connaître?
Pas les premières années, parce que les 3 premières années, ça n'a jamais fonctionné.
Le site marchait mal?
Il fonctionnait pas du tout.
D'accord.
Et j'ai trouvé quelqu'un qui s'en occupe bien. Et puis là, c'est vraiment intéressant. Quoi.
Enfin, sur le bien-être animal, on voit des fois des campagnes pas possibles sur des choses pointues. Mais sur l'élevage des cochons, il n'y a pas tellement de... Enfin, c'est pas un sujet qui fait la une des journaux ou le buzz sur Internet, comme on dit. Vous expliquez ça comment?
Quand il est élevé en conventionnel... Il utilise beaucoup d'antibiotiques parce qu'il est mal dans sa peau. Et nous, il nous le rend aussi parce que il a besoin de vétérinaire. Et l'animal, s'il se sent bien, mais l'être humain, je pense qu'on est en train d'évoluer aussi chez nous. Les antibiotiques, il y en a, ils utilisent de moins en moins quand même, pour eux.
Oui.
Alors, pour les animaux, c'est pareil. Un animal, il n'a pas besoin d'antibiotiques s'il n'est pas malade. Il ne faut pas l'utiliser comme facteur de croissance. Ça, c'est...
Ah, parce qu'aujourd'hui, vous pensez que les antibiotiques sont utilisés comme
facteur de croissance? Il y a eu des années, en tout cas. Là, je suis sorti du système, mais il y a eu des années, oui. Plus on donne de supplémentation, plus ça pousse vite. On leur donnait des médicaments préventifs. Quand on gagne des jours de croissance, on gagne de l'argent.
Et donc, vous pensez quand même que déjà, le fait que les cochons en plein air soient beaucoup moins malades, c'est plutôt un signe qu'ils sont sûrement plus heureux?
C'est un peu comme les gens, ça. C'est pareil. Hein. Plus on est stressé, plus c'est compliqué. Maintenant, après, s'il y en a d'autres choses extérieures qui nous enlèvent le stress, qui nous déstressent, quoi, on est moins malade. Bah, les animaux, c'est pareil, hein, quand ils sont au soleil, couchés ou qu'ils courent, ils sont plus heureux que dans le noir. J'ai pris mes animaux, bah, ils ne connaissaient pas la clôture. Et la clôture, bah, ils sont lancés plusieurs fois dedans et puis ça les a bloqués du dos.
D'accord.
J'en ai eu trois comme ça.
Parce que la clôture, elle est électrifiée.
Ah bah oui, oui. Ah oui, sinon, les animaux seraient partis, ça longtemps. Et bah, il me les a... Enfin, replacé, bah, il était sur
le cul. Voilà, on est en train de parler d'un ostéopathe pour animaux.
Ouais. Et il bougeait que du train avant, quoi. Elle était sur son cul et puis elle ne bougeait plus. Et bah, j'en ai récupéré trop comme ça. Bah, un ostéopathe, normalement, il doit connaître. Il y en a pour les animaux. J'ai vu une émission là-dessus. Ça fonctionne très bien. Hein. Et là, c'est encore pareil. Ici, je vais m'entêter à faire ça. Ben, en conventionnel, un animal sur le cul, c'est l'abattoir ou l'écarissage, quoi. Mais c'est ça, c'est toute cette recherche qu'on fait, nous, pour pas perdre des animaux. Ça me rapporte rien.
Bien sûr.
Mais c'est pas le rapport, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Moi, la rentabilité,
qualité,
c'est
voilà.
Pas. C'est remettre un animal debout, ben, on est heureux, quoi.
Est-ce que vous utilisez aussi les huiles essentielles? J'avais rencontré un éleveur de vaches qui utilisait, qui soignait aux huiles essentielles.
J'utilise maintenant un produit un peu comme vermifuge, mais à base que de plantes.
Et ça marche bien.
Oui, ça marche bien.
Nous arrivons au terme de cette première partie. À la semaine prochaine pour la seconde partie.